Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Allez, on a un invité mystère ce soir dans les vraies voix du sport. Il est enregistré en fin de matinée parce qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il est à l'entraînement avec ses joueurs de La Chapelle de Guinchay. Et bien on écoute ceci, un son qui va vous faire à toutes et tous vraiment plaisir à entendre.
Boer qui va sortir sur la frappe, le frappeur.
Reculé, lui dit Monsieur Perretto. Allez, c'est parti. Allez,
oh oui,
allez.
Oh, but.
Oh, quel but.
Oh, quel but.
But de Bruno Ngoti sur ce coup franc au ras du piquet.
Oh, quelle frappe.
À la 28e minute. Oh, quelle frappe de Bruno Ngoti.
Bon, bah, vous avez deviné qui est cet invité mystère. Salut Bruno Ngoti.
Bonjour.
Quand tu entends ce son presque 24 ans après, c'était le 8 mai 1996, quels effets ça te fait?
Ah, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de réentendre un peu tous ces commentaires, même si aujourd'hui ça fait plus de, comme vous l'avez dit, 23 ou 24 ans.
Ça fera 24 ans le 8 mai.
Voilà, donc c'est toujours une fierté de gagner une Coupe d'Europe. Donc avec un plus surtout avec le PSG, donc c'est beau. C'est beau d'entendre ça, même si aujourd'hui j'ai oublié tout ça et je passe sur quelque chose d'autre.
Bah justement, Bruno, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi ton réveil? C'est l'hymne de Ligue des Champions ou ce son?
Oh, c'est quand même la Ligue des Champions, quand même, parce que quoi qu'il arrive, c'est ce son, il est beau. Ce son, il est beau. C'est une Coupe d'Europe et c'est vrai que la plus grosse Coupe d'Europe, elle est encore plus belle. Mais voilà, ça restera toujours un bon souvenir et un bon souvenir, en fait, pour une bande de copains qui avait fait une édition en 96 avec des matchs de folie, avec des retournements de situation et puis une victoire en fin de saison.
Et puis avec des gros clients, vous aviez éliminé le PSG, le Celtic Glasgow, ensuite le Parme de Stoichkov, ensuite le Deportivo La Corogne qui était un des cadors de la Liga, et pour finir finalement c'était peut-être le plus facile, le Rapide de Vienne en finale, non ?
Exactement, c'est vrai que sur on a passé des étapes, des grosses étapes avec des gros clubs, et puis des fois le tirage fait les choses comme ça. De l'autre côté, le Rapide de Vienne a eu aussi un tirage un peu plus favorable, et puis c'est vrai que la finale était moins huppée que ce qu'on a pu l'être l'année d'après, c'est vrai.
Ah, le Barça, voilà, l'année suivante.
C'est ça, ouais. Mais ça reste quand même, quoi qu'il arrive, contre une grosse équipe ou contre une petite équipe, ça reste toujours un titre, et aujourd'hui en 96, on a réussi à le gagner, donc ça restera toujours dans les mémoires, quoi qu'il arrive.
Et justement, le PSG a gagné donc la Coupe des clubs champions.
Non, la Coupe des coupes.
La Coupe des coupes, pardon.
La Coupe des clubs champions, on espère qu'elle aura lieu cette année jusqu'à la fin et qu'ils la gagneront.
et tu l'as dit, ça n'a peut-être pas la même saveur qu'une Ligue des champions. Est-ce que le PSG, cette année, peut le faire?
Ouais, je pense que c'est, ils peuvent le faire. Je pense que ça fait déjà 2-3 ans qu'ils végètent un peu entre les huitièmes, entre les quarts. Ça se joue à rien du tout. On a vu ce match qu'ils ont joué il y a deux, trois jours, je pense, comme ça, avec
mercredi,
un merveilleux match. Ouais. Alors, franchement, en plus à huis clos, ils avaient un match difficile à l'aller à Dortmund où ils perdent 2-1. Remobilisation, problème avec les supporters, pas de supporters pour le match. On les a vus qui se sont concentrés pour pouvoir passer cette étape parce qu'ils étaient attendus depuis très longtemps. Tout le monde disait qu'ils allaient encore faire éliminer sur ces huitièmes de finale. Donc, je pense que remobilisation totale et puis un match de folie avec les supporters qui étaient au parc, à l'extérieur du parc, qui ont vibré jusqu'au bout. Et c'est beau. Et c'est beau parce qu'aujourd'hui, je pense que le PSG règne sur la France depuis très longtemps, depuis que les Qataris sont arrivés. Niveau européen, c'était un peu plus compliqué. Et puis, on voit aujourd'hui que ça y est, c'est parti. Donc, j'espère qu'ils iront au bout, même si après, maintenant, avec le problème du coronavirus, exactement, on ne sait pas comment ça va se finir cette saison. Donc, mais j'espère que ça sera la bonne. Ouais, parce que je pense qu'ils ont tout pour y aller.
Bruno, est-ce que tu ne crois pas, en voyant le match de mercredi soir, c'était le 11 mars, qu'une équipe est née? Parce que, désolé, à l'époque, enfin, les trois dernières saisons, on peut dire que le PSG avait failli mentalement à Barcelone, bon, plus l'arbitrage, les trois dernières saisons, avait failli mentalement contre Manchester United, une équipe à les B' de Manchester United l'année dernière. Est-ce que cette année, quand tu passes au forceps, parce que bon, ça passe pas largement, largement. Hein. Si les Allemands avaient marqué dans les 10 dernières minutes, que se serait-il passé? Est-ce qu'ils auraient recraqué mentalement? Est-ce que tu crois pas qu'une équipe est née, que peut-être là maintenant, ils ont vaincu le signe indien des huitièmes qui a duré pendant 3 ans?
Bah, une équipe est née, je pense qu'elle elle était déjà née depuis 2-3 ans. Après, il y avait toujours des concours de circonstances. On a vu qu'à l'époque, il y a eu Neymar qui jouait pas. Et puis, on se reposait carrément sur une individualité en disant si Neymar n'est pas là, ça va être compliqué. Si Thiago Silva n'est pas là, ça va être compliqué. En fait, on essayait tout de suite de se trouver un souci si on tardait le match. Aujourd'hui, on l'a vu, Mbappé était malade, il a pas joué, ils ont joué le match comme il fallait. On s'est pas dit que si Mbappé il jouait pas, et ben ça va être plus compliqué. Non, ils ont pris le match comme il fallait, ils ont fait ce qu'il fallait tous ensemble. Ils ont été unis, on l'a vu surtout sur les buts. Une fois qu'ils ont marqué le but, on a vu le banc qui s'est levé, tout le monde s'est levé, une union en fait sacrée entre les joueurs et puis les remplaçants. On voit que le groupe est là, et le groupe il est pas que de cette saison, il est quand même construit depuis 3-4 saisons. Donc le groupe est là. Après aujourd'hui, il fallait juste se relâcher et se lâcher et puis croire en ses chances. Parce que je pense que le PSG, ça joue à rien du tout. Et aujourd'hui, ils sont passés. Et je pense qu'il y aura encore des matchs qui seront compliqués jusqu'à la fin de la Coupe d'Europe. À eux de faire ce qu'il faut pour aller au bout.
Et justement, Bruno, toi qui as été un défenseur, est-ce que ça ne t'irritait pas les joueurs qui ne reviennent pas? Et justement, la deuxième question, c'est est-ce que ce qui n'a pas vraiment fait la différence mercredi, c'est les retours défensifs de Neymar?
Ouais, c'est sûr que c'est compliqué, mais après, voilà, on sait que on a un joueur qui peut nous apporter offensivement. Après, de le voir défendre beaucoup plus, c'est bien, ça peut nous aider. Mais après, offensivement, est-ce qu'il aura les capacités à aller à faire la différence devant? Donc, on sait que voilà, il peut faire la différence à tout moment. Laissons devant, et puis nous, on est tous ensemble en disant allez, on tient le choc. Et puis je pense que si on fait tout ça, eh ben il nous fera quelque chose de bien devant. Et puis c'est ce qu'il a fait sur le match de mercredi.
Et qu'est-ce qui manque? Allez, soyons un peu sur la réserve. Qu'est-ce qui manque encore à ce PSG? Très rapidement.
Ce qui manque, je sais pas. Après, voilà, c'est quand même une équipe complète. C'est vrai, c'est offensivement, c'est très costaud. Ça peut marquer beaucoup de buts. Après, je pense que défensivement, après, voilà, c'est, d'ouvrir le jeu, ça crée des espaces pour l'adversaire. Donc, je pense que le point le plus faible, c'est la défense. Même si aujourd'hui, j'incrimine pas les défenseurs, parce que je pense que c'est
des très bons joueurs. Qui ont fait un match relativement bon.
Exactement, bien sûr. Et l'attaque est énorme. Après, mes terrains, je pense que c'est avec la façon de jouer, avec des joueurs comme Verratti qui récupère beaucoup de ballons, qui donne beaucoup de ballons. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de point faible. Voilà. Après, voilà, contre une équipe qui joue, eh ben, on crée beaucoup d'espace. Et puis, la défense, ils ne peuvent pas toujours plier à tout. Donc, voilà, on incrimine beaucoup la défense, mais c'est un groupe, c'est un potentiel aujourd'hui qui fait la différence. Ouais.
Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix du sport, avec un invité exceptionnel pour le football ce soir. Qu'est-ce que c'était bon de réentendre son but au stade Roi Baudouin à Bruxelles le 8 mai 96. On espère que un de ces jours-là, on va avoir encore un club français qui va gagner une Coupe d'Europe. On en a encore deux qualifiés cette année, le Paris Saint-Germain, où a joué Bruno Ngoti, et l'Olympique Lyonnais. Bon, on ne sait pas quand ils vont jouer le match retour contre les Juventus, où a également joué Bruno Ngoti. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Allez, on a un invité mystère ce soir dans les vraies voix du sport. Il est enregistré en fin de matinée parce qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il est à l'entraînement avec ses joueurs de La Chapelle de Guinchay. Eh bien, on écoute ceci, un son qui va vous faire à toutes et tous vraiment plaisir à entendre.
Boer qui va sortir sur la frappe, le frappeur.
Reculé, lui dit Monsieur Perretto. Allez, c'est parti. Allez,
oh oui,
allez.
Oh, but.
Oh, quel but,
quel but.
But de Bruno Ngoti sur ce coup franc au ras du piquet.
Oh, quelle
à la 28e minute. Oh, quelle frappe de Bruno Ngoti.
Bon, bah vous avez deviné qui est cet invité mystère. Salut Bruno Ngoti.
Bonjour.
Quand tu entends ce son presque 24 ans après, c'était le 8 mai 1996, qu'est-ce que ça te fait?
Ah, ça fait toujours plaisir. ça fait toujours plaisir de rentendre un peu tous ces commentaires, même si aujourd'hui ça fait plus de, comme vous l'avez dit, 23 ou 24 ans.
Ça fera 24 ans le 8 mai.
Voilà, donc c'est toujours une fierté de gagner une Coupe d'Europe. Donc, avec en plus surtout avec le PSG, donc c'est beau, c'est beau d'entendre ça, même si aujourd'hui j'ai oublié tout ça et je passe sur quelque chose d'autre.
Bah justement, Bruno, bonjour. Bonjour. C'est quoi ton réveil ? C'est l'hymne de Ligue des Champions ou ce son ?
Oh, c'est quand même la Ligue des Champions, quand même, parce que quoi qu'il arrive, c'est ce son ou des beaux. Ce son ou des beaux, c'est une Coupe d'Europe, et c'est vrai que la plus grosse Coupe d'Europe, elle est encore plus belle. Mais voilà, ça restera toujours un bon souvenir, et un bon souvenir, en fait, pour une bonne de copains qui avait fait une édition en 96 avec des matchs de folie, avec des retournements de situation, et puis une victoire en fin de saison.
Et puis avec des gros clients, vous aviez éliminé le PSG, le Celtic Glasgow, ensuite le Parme de Stoichkov, ensuite le Deportivo La Corogne, qui était un des cadors de la Liga, et pour finir, finalement, c'était peut-être le plus facile, le Rapide de Vienne, en finale, non ?
Exactement, c'est vrai que sur on a passé des étapes, des grosses étapes avec des gros clubs, et puis des fois le tirage fait des choses comme ça. De l'autre côté, le Rapide de Vienne a eu aussi un tirage un peu plus favorable, et puis c'est vrai que la finale était moins huppée que ce qu'on a pu l'être l'année d'après, c'est vrai.
Ah, le Barça, voilà, l'année suivante.
C'est ça, ouais. Mais ça reste quand même, quoi qu'il arrive, contre une grosse équipe ou contre une petite équipe, ça reste toujours un titre, et aujourd'hui en 96, on a réussi à le gagner, donc ça restera toujours dans les mémoires, quoi qu'il arrive.
Et justement, le PSG a gagné donc la Coupe des Clubs Champions.
Non, la Coupe des Coupes.
La Coupe des Coupes, pardon.
La Coupe des Clubs Champions, on espère qu'elle aura lieu cette année jusqu'à la fin, et qu'ils la gagneront.
et tu l'as dit, ça n'a peut-être pas la même saveur qu'une Ligue des Champions. Est-ce que le PSG, cette année, peut le faire ?
Ouais, je pense que c'est, ils peuvent le faire. Je pense que ça fait déjà 2-3 ans qu'ils végètent un peu entre les huitièmes, entre les quarts. Ça se joue à rien du tout. On a vu ce match qu'ils ont joué il y a deux, trois jours, je pense, comme ça, avec
mercredi,
un merveilleux match. Ouais. Alors, franchement, en plus à huis clos, ils avaient un match difficile à l'aller à Dortmund où ils perdent 2-1. Remobilisation, problème avec les supporters, pas de supporters pour le match. On les a vus qui se sont concentrés pour pouvoir passer cette étape parce qu'ils étaient attendus depuis très longtemps. Tout le monde disait qu'ils allaient encore faire éliminer sur ces huitièmes de finale. Donc, je pense que remobilisation totale et puis un match de folie avec les supporters qui étaient au parc, à l'extérieur du parc, qui ont vibré jusqu'au bout. Et c'est beau. Et c'est beau parce qu'aujourd'hui, je pense que le PSG règne sur la France depuis très longtemps, depuis que les Qataris sont arrivés. Niveau européen, c'était un peu plus compliqué. Et puis, on voit aujourd'hui que ça y est, c'est parti. Donc, j'espère qu'ils iront au bout, même si après, maintenant, avec le problème du coronavirus, exactement, on ne sait pas comment ça va se finir cette saison. Donc, mais j'espère que ça sera la bonne. Ouais, parce que je pense qu'ils ont tout pour y aller.
Bruno, est-ce que tu ne crois pas, en voyant le match de mercredi soir, c'était le 11 mars, qu'une équipe est née? Parce que, désolé, à l'époque, enfin, les trois dernières saisons, on peut dire que le PSG avait failli mentalement à Barcelone, bon, plus l'arbitrage, les trois dernières saisons, avait failli mentalement contre Manchester United, une équipe à les B' de Manchester United l'année dernière. Est-ce que cette année, quand tu passes au forceps, parce que bon, ça passe pas largement. Hein. Si les Allemands avaient marqué dans les 10 dernières minutes, que se serait-il passé ? Est-ce qu'ils auraient recraqué mentalement ? Est-ce que tu crois pas qu'une équipe est née et que peut-être, là, maintenant, ils ont vaincu le signe indien des huitièmes qui a duré pendant 3 ans ?
Bah, une équipe est née, je pense qu'elle était déjà née depuis 2-3 ans. Après, il y avait toujours des concours de circonstances. On a vu qu'à l'époque, il y a eu Neymar qui jouait pas, et puis on se reposait carrément sur une individualité en disant si Neymar n'est pas là, ça va être compliqué. Si Thiago Silva n'est pas là, ça va être compliqué. En fait, on essayait tout de suite de se trouver un souci si on perdait le match. Aujourd'hui, on l'a vu, Mbappé était malade, il a pas joué, ils ont joué le match comme il fallait. On s'est pas dit que si Mbappé il jouait pas, et ben ça va être plus compliqué. Non, ils ont pris le match comme il fallait, ils ont fait ce qu'il fallait tous ensemble. Ils ont été unis, on l'a vu surtout sur les buts. une fois que je marquais le but, on a vu le banc qui s'est levé, tout le monde s'est levé, tout une union en fait sacrée sur entre les joueurs et puis les remplaçants. On voit que le groupe est là, et le groupe il est pas que de cette saison, il est quand même construit depuis 3-4 saisons. Donc le groupe est là. Après aujourd'hui, il fallait juste se relâcher et se lâcher et puis croire en ses chances. Parce que je pense que le PSG, ça joue à rien du tout. Et aujourd'hui, ils sont passés. Et je pense qu'il y aura encore des matchs qui seront compliqués jusqu'à la fin de la Coupe d'Europe. À eux de faire ce qu'il faut pour aller au bout.
Et justement, Bruno, toi qui as été un défenseur, est-ce que ça ne t'irritait pas les joueurs qui ne reviennent pas? Et justement, la deuxième question, c'est est-ce que ce qui n'a pas vraiment fait la différence mercredi, c'est les retours défensifs de Neymar?
Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Mais après, voilà, on sait que on a un joueur qui peut nous apporter offensivement. Après, de le voir défendre beaucoup plus, c'est bien, ça peut nous aider. Mais après, offensivement, est-ce qu'il aura les capacités à aller à faire la différence devant? Donc, on sait que voilà, il peut faire la différence à tout moment. Laissons devant et puis nous, on est tous ensemble en disant allez, on tient le choc. Et puis je pense que si on fait tout ça, il nous fera quelque chose de bien devant. Et puis c'est ce qu'il a fait sur le match de mercredi.
Et qu'est-ce qui manque? Allez, soyons un peu sur la réserve. Qu'est-ce qui manque encore à ce PSG? Très rapidement.
Ce qui manque, je sais pas. Après, c'est quand même une équipe complète. C'est vrai, c'est offensivement, c'est très costaud. Ça peut marquer beaucoup de buts. Après, je pense que défensivement, c'est d'ouvrir le jeu, ça crée des espaces pour l'adversaire. Donc, je pense que le point le plus faible, c'est la défense. Même si aujourd'hui, j'incrimine pas les défenseurs, parce que je pense que c'est
des très bons joueurs. Qui ont fait un match relativement bon.
Exactement, bien sûr. Et l'attaque est énorme. Après, le terrain, je pense que c'est avec la façon de jouer, avec des joueurs comme Verratti qui récupère beaucoup de ballons, qui donne beaucoup de ballons. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de point faible. Voilà. Après, voilà, contre une équipe qui joue, on crée beaucoup d'espace. Et puis, la défense, ils ne peuvent pas toujours plier à tout. Donc, on incrimine beaucoup la défense, mais c'est un groupe, c'est un potentiel aujourd'hui qui fait la différence. Ouais.
Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix du sport, avec un invité exceptionnel pour le football ce soir. Qu'est-ce que c'était bon de réentendre son but au stade Roi Baudouin à Bruxelles le 8 mai 96. On espère que un de ces jours, là, on va avoir encore un club français qui va gagner une Coupe d'Europe. On en a encore deux qualifiés cette année, le Paris Saint-Germain, où a joué Bruno Ngoti, et l'Olympique Lyonnais. Bon, on ne sait pas quand ils vont jouer le match retour contre les Juventus, où a également joué Bruno Ngoti. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Et c'est désormais le rugby. Oui, il faut bien en parler. Alors le sport va être un peu à l'arrêt dans les semaines à venir, mais il y a quand même eu un événement dimanche dernier, oui. Lors d'Écosse-France, la France qui menait et puis qui a pris un énième carton rouge. C'était Mohamed Awas et puis à la fin, on a perdu. Ça rappelle de manière amère le quart de finale de Coupe du Monde face au Pays de Galles. Là, c'était Sébastien Vahamaina et c'était pas un coup de poing, c'était un coup de coude. Et pour en parler, on a bien évidemment Philippe Spanghero, comme tous les vendredis soirs, mais on a surtout une légende du rugby, une légende des piliers, et surtout, c'est lui qui a été le premier expulsé lors d'un match avec les Bleus. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit « Ah, c'est bien, j'étais sûr qu'on allait ressortir les dossiers qui a 30 ans ». C'est Jean-Pierre Garouet.
Je vous apprécie bien, mais je vais pas me raconter de votre vie pendant 80 minutes.
C'est fini! Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste!
La chatte!
Mais c'est sur Sud Radio, grand couillon, évidemment.
Alors, Jean-Pierre Garouet, salut Jean-Pierre.
Oui, bonsoir Philippe.
Tu m'as dit, tu ressors les dossiers. Alors, tu m'as dit d'il y a 30 ans, c'est pas vrai, ça a 35 35. Ans. C'est encore 36, plus vieux.
Oui,
1984.
Ça, oui.
Merci d'être avec nous ce soir. Salut Philippe Spanghero. Oui.
Salut Jean-Pierre. Oui, salut Philippe.
Alors Jean-Pierre, tu sais, les auditeurs de Sud Radio votent sur Twitter et on leur pose la question. Carton rouge à répétition, j'ai cité Vahamaina, c'était à la Coupe du Monde. Awas, c'était dimanche dernier. Les rugbymen français sont-ils indisciplinés? Et à part un commentaire de Philippe qui nous dit perfide Albion, alors que l'arbitre était néo-zélandais. 71% des votants disent oui, les rugbymen français sont indisciplinés. Est-ce que tu es d'accord ?
Oui, bon, on va aller dans ce sens-là, c'est vrai. Mais donc, il y a la preuve, mais quand même. Bien sûr, j'ai été ce premier, il en fallait un, puis après, je revois. Mais à partir du moment où on prend le coup de vaccin, comme j'ai dit, ceux qui m'ont suivi après, c'est Moscato et Lascubé.
Oui.
Et j'avais dit aussitôt, j'ai dit, vous savez, là, à partir de là, ces gars-là, ils vont être vaccinés. Et comme ça va arriver aussi pour Momo Awas, et comme pour Sébastien Mamina, là, je peux vous dire qu'à partir de maintenant, j'étais d'abord très heureux de voir qu'il n'a pris que trois semaines.
Oui.
Donc ça veut dire qu'on a pu justifier que ça a été, et sur un réflexe, c'est vrai, cette indiscipline où maintenant le rugby devient professionnel, et il vaut mieux faire du, je dirais un peu comme Neymar, faire du semblant un peu de plus, et que je crois, mais oui, il va falloir qu'on se le mette un peu dans la tête de faire ça. Et parce que on n'est pas, je dirais, comme le capitaine de l'équipe de Galles, qui à un moment donné, et vous avez vu un peu quand Marlène le prend, et qui attend pratiquement, c'est vrai qu'au bout de 5-40 de sélection, et il a su se maîtriser et presque montrer à tout le monde, les caméras, les photographes, et regarder ce qu'il fait, et autant, bon, c'est sûr que Momo Awas n'a que 4 matchs. C'est vrai qu'il a pas pu se contrôler, et je le comprends, ça m'est arrivé, mais à partir de maintenant, je crois qu'il se contrôlera, et ça va lui rentrer un peu dans le sang, aussi dans la tête, parce que vraiment, ça m'est arrivé. Je peux vous dire qu'à partir de là, à partir du 21 janvier 84, j'ai joué. Et j'ai pratiqué le rugby en état assez virulent, mais avec les mains dans les poches. Ça, je peux vous dire, c'était terminé.
Et puis avec quel palmarès, Grand Chelem en 87, Tournoi des 5 nations en 86, 88, 89, et la première finale de Coupe du Monde en 87 comme titulaire. Philippe Spanghero, est-ce que tu es d'accord avec les auditeurs de Sud Radio qui disent que les rugbymen français sont indisciplinés?
Mais plutôt, bon, culturellement, il y a quand même cette culture en France, notamment à l'époque de Jean-Pierre, et même avant, le rugby était un sport dur. Moi, mon père m'a souvent dit qu'il était heureux de nous voir, mon frère et moi, jouer aujourd'hui, parce qu'il aurait été beaucoup plus inquiet si on avait joué de son temps. Il y avait une culture de la violence physique, alors je mets des guillemets à ça parce que le terme est très dur, mais la France était reconnue pour ça, et les adversaires, nos adversaires sur la scène internationale étaient toujours assez inquiets quand ils jouaient l'équipe de France. Et puis Jean-Pierre a joué avec lui, mais après il y a des joueurs comme Eric Chat notamment qui ont cultivé ça, etc. Et donc c'est un peu resté dans les gènes du rugby français. Aujourd'hui, on retrouve ces faux pas. C'est vrai que ça fait mal, parce que les cas dont on parle, comme le disait Jean-Pierre, je pense que ça servira de leçon à ces joueurs-là, parce que c'est des éléments qui font basculer des matchs importants. C'est-à-dire qu'on parle d'un geste de Sébastien Vamina qui, a priori, nous fait perdre
le quart de Coupe du Monde,
finale de Coupe du Monde. Et on parle d'un geste d'Awas qui, a priori, nous fait dévisser. Alors, on n'aurait peut-être pas gagné, c'était pas le même contexte que le carton de Vamina, mais nous fait dévisser sur ce match en Écosse, où on allait jouer potentiellement un grand chelem. Bon, après, il se passe ce qui se passe, et on ne sait pas si ce tournoi va pouvoir aller à son terme ou pas.
Mais a priori en octobre, hein, donc on a le temps.
Oui, mais en l'occurrence, voilà, c'est deux gestes très marquants et très pénalisants pour l'équipe de France.
Alors justement, Jean-Pierre, il y a eu 14 joueurs français qui ont été expulsés, 7 piliers, 4 secondes lignes, 1 troisième ligne et 2 trois quarts. Alors j'ai eu la surprise que un des finalistes de la Coupe du Monde 87 à tes côtés et vainqueur du Grand Chelem, un certain Philippe Sella avait été expulsé une fois. S'il nous écoute, on le salue, l'ami Philippe, qui est vraiment quelqu'un de super sympa. Comment expliquer que ce soit plus les gens du PAC qui soient expulsés? C'est un peu comme disait Audiard, quand les gars de 120 kilos parlent aux gars de 40, ceux de 40 ont une certaine tendance à les écouter?
Oui, aussi, mais c'est-à-dire qu'on est en première ligne. Hein,
c'est
jeunes,
le cas de le dire. Sur tous les piliers, le talonneur.
D'entrée, parce que je crois que, bon, il y a, je me rappelle de Philippe Gallard, je crois, mais de Rotin Lascubé.
Il y a eu Carminati après toi, qui lui jouait troisième ligne.
Oui.
Carminati en 90, Lascubé et Moscato dans le tournoi, et ensuite Slimani et Aouas. Mais dans les test matchs, il y avait eu, alors je te donne tous les autres, il y avait eu Garouet, donc toi, Lorieux, Gallard, Benazi, Carminati, Lascubé, Moscato, Sella, Krenka, un autre pilier.
Ah, Krenka, oui.
Maestri, Slimani, encore un pilier, Fall, trois quarts ou arrière, Vahamaina et Aouas maintenant.
Oui, bon, mais là quand même, bon, c'est un sport de combat et de contact, et je crois que c'est tout à fait normal, et de la réaction. Mais c'est sûr que là maintenant, comme ça devient un sport professionnel, on se doit il va falloir qu'on enseigne, oui, que nous aussi qu'on devienne un peu britannique là d'avoir un peu ce genre de fair play ou avoir beaucoup de rigueur et dans le contact comme ça, mais surtout il faut pas tomber dans ça là maintenant, mais ça automatiquement, moi ça m'est arrivé, puisque j'ai fait pratiquement 7 ans d'équipe de France. Après je peux vous dire qu'on est dressé là c'est une éducation, une fois qu'on a donné, puis en sachant que c'est terminé, j'ai eu ce carton, je dirais que ça a été le joker. Mais après dès que j'ai repris le pompon, je ne l'ai pas lâché pendant 7 ans quand même,
ça c'est vrai.
Je peux vous dire, j'ai fait très, très attention, et ça notamment, j'ai vu en fait des déclarations de Fabien Galthié qui le dit pour Momo Aouas, qui dit voilà, il n'aura pas un autre joker, et je pense que c'est dans le rugby de tous les jours, et du top 14 de partout, et on se doit, et où là maintenant en plus c'est très télégénique, et il faut montrer quand même de belles images. Il faut pas répondre à ça, mais c'est vrai que c'est dur quand même. Vous savez, il y a du combat et des fois il y a des provocations, parce que je peux vous dire que les Britanniques, les provocations, là ce sont les champions.
Ouais, entre, Jean-Pierre, vous parlez, ouais. Jean-Pierre, tu sais ce qu'on dit des Britanniques.
Ouais.
Les Anglais ont inventé le fair-play pour les autres.
Oui, faites ce que j'ai dit, mais pas ce que je fais. Et ça c'est vrai que, et puis parce que je me rappellerai le premier match que je refais quand je reviens donc pour le tournoi, je vais faire ce match contre les Irlandais où j'avais été exclu un an avant. Je puis vous dire que la première mêlée qu'on fait, ça a été relevé. J'étais vraiment, les coups de poing qui sont partis, qui m'ont provoqué, et puis j'ai dit, mais comme si c'était un combat de championnat de chez nous. Et quand on regarde sur les, je dis, mais vous avez vu cette première mêlée, comment j'ai été agressé, relevé, ah mais sur les caméras, comme si on leur avait dit, non, prenez les trois quarts, mais ne prenez pas
c'est fou.
Le dessous de la mêlée.
Attends, on va faire réagir Philippe Spanghero, Jean-Pierre. Philippe, c'est vrai que, comme le disait Jean-Pierre à juste titre, tu vois les stats, sur les 14 joueurs français expulsés, il y en a 12 du PAC. Il y a quand même des postes beaucoup plus exposés, non?
Mais beaucoup plus exposé parce que comme le disait Jean-Pierre, le défi physique est beaucoup plus permanent. L'affrontement entre les phases de conquête, etc., comme moins les trois quarts. Donc il y a beaucoup plus d'occasions d'être en contact direct et qu'il y ait quelques échauffourées. Donc c'est très logique. Et puis il y a une dimension aussi psychologique très très forte. C'est-à-dire qu'on veut se marquer psychologiquement, marquer le défi physique. Donc on a beaucoup plus d'occasions de le faire devant que derrière. Donc c'est normal que le nombre de cartons soit beaucoup plus important devant. Ouais, bien sûr.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h41, et vous êtes 71% à dire que oui, les rugbymen français sont indisciplinés. Mais comme l'a dit Jean-Pierre Garvey, Aouas, il a retenu la leçon, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera pas deux. Et cette équipe de France, elle nous a quand même montré de sacrées belles choses, même si on va devoir s'en passer, comme du top 14, comme de tout ça, pour cause de coronavirus. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Et le vendredi, c'est sport en compagnie de Philippe Spanghero et bien sûr de Jean-Pierre Garvey, pilier mythique des Bleus, finaliste de la première Coupe du Monde. 4 victoires dans le tournoi des 5 nations, dont un grand chelem. On vous pose la question, carton rouge à répétition pour les Bleus. Les rugbymen français sont-ils indisciplinés? Je vais vous faire réagir à 2 commentaires. On a Philippe, mais je crois que j'ai déjà lu, qui a dit « perfide Albion ». Et on a Evelyne qui nous dit « les arbitres, oui, par contre ». Pour dire que c'est les arbitres qui sont indisciplinés et pas les rugbymen français. Jean-Pierre Garvey, est-ce que... Tu as une longue carrière et tu as encore des amis dans le rugby aujourd'hui. Est-ce que les arbitres qui sont à 99% anglo-saxons, il était néo-zélandais la semaine dernière, il était sud-africain pour Vahamaina, et il n'y a rien à dire sur les 2 cartons rouges, est-ce que les Français, ou allez, je vais te prendre les autres, les Italiens, les Argentins, les non-anglo-saxons, sont arbitrés de la même manière que les anglo-saxons?
Ça, je dirais que oui, les arbitres français se sont mis au diapason, rien qu'à voir un peu dans le top 14 comment ils appliquent un peu la
Non,
la
c'est
règle.
Pas ma question. Est-ce que les arbitres anglo-saxons arbitrent les équipes anglo-saxons, les Français, de manière plus dure que les gens
entièrement. Non, ça, il y a le soutien britannique. Ça, ils sont vraiment. Ça, oui. Je le réponds vraiment parce que là sur l'arbitrage quand même sur le week-end dernier. Vraiment, même si j'ai essayé d'être impartial, non, je pense quand même qu'il a vraiment, ils ont les Français. C'est vrai que nous les aidons, mais quand même, je crois qu'on part toujours avec un handicap.
Parce que là, je te coupe, Jean-Pierre, l'Écossais qui met une main au visage de Aouas, il mérite quand même un carton jaune, non?
Il aurait mérité, et je crois. Alors, parce que quand il redemande la vidéo, parce qu'après, ça veut dire il demande, mais il ne demande qu'il demande pas les 10 secondes juste avant, là, où il aurait vu vraiment quand il se fait agresser, et parce qu'il y a à un moment donné, quand même, il se retrouve tout ce pack d'avant et qui viennent aider ce troisième lien, le 8, puis après l'autre troisième lien, vraiment, là, il a solidarité, parce que les deux arbitres de touche peuvent appeler, ou l'arbitre de vidéo, dire, bon, il y a eu un peu ça, et
À croire qu'il n'y avait que des Français fautifs. Philippe Spanghero, t'as entendu Jean-Pierre Garvey qui dit qu'on n'a pas le même arbitrage que les autres. Rappelle-toi, tu vas dire que je suis monomaniaque dans ce domaine. Mais la finale de la Coupe du Monde 2011, où Richie Macko défonce, il n'y a pas d'autre mot, Morgan Parra, et ça passe crème, est-ce que ça prouve pas que Jean-Pierre a raison?
Je pense que quelque part Jean-Pierre a raison, mais comme il le disait en préambule, on les aide bien, on a parfois des comportements grossiers. Pour moi, la finale de la Coupe du Monde, c'est un cas à part, parce qu'il y a un poids particulier sur des décisions arbitrales qui font qu'au-delà de potentiellement pas être complètement impartial, on sait qu'une décision comme ça qui prive la Nouvelle-Zélande chez elle d'un titre, etc., je pense que consciemment ou inconsciemment, ça joue dans la tête des arbitres au moment de prendre des décisions. Là, c'est un peu différent sur ce match contre l'Écosse, et Jean-Pierre a raison. Moi, ce que je déplore souvent dans le rugby actuel, avec l'apparition de la vidéo, c'est le manque de prise de décision ou d'aide à la décision des arbitres de touche. Ils n'interviennent plus jamais. donc sur des occasions d'essai. On a mis des arbitres dans le but. Il y a des situations qui se passaient sous leur nez. L'arbitre de champ venait les voir pour savoir quelle était la décision à prendre. Il demandait la vidéo. Donc, ils osent plus se mouiller. Et c'est dommage parce que dans ce genre de situation, ça aurait aidé. Et oui, je trouve que psychologiquement, pour Awas, ça aurait été bien que l'Écossais prenne un carton jaune. Mais on voit aujourd'hui, avec la sévérité avec laquelle les sanctions sont données, on voit la suspension de Marleur qui, honnêtement, est quand même...
Il a pris combien? Oui, c'est pour avoir mis la main...
10 semaines.
Oui, mais il a mis la main dans une partie du corps qu'en général, on ne va pas toucher, sauf quand on est vraiment intime, excuse-moi.
Oui, d'accord, mais enfin, on juge aussi de la violence du geste.
Oui.
Donc là, 10 semaines, je trouve ça dur, très dur. Et donc, en comparaison, je pense que les 3 semaines d'Awas montrent qu'il a des circonstances atténuantes.
Alors justement, on va parler un peu de ce tournoi des 6 nations. Alors, qui touche à sa fin sans y toucher, parce que les derniers matchs devaient avoir lieu demain, enfin ce week-end, enfin dans demain, et vu le coronavirus, évidemment, c'est annulé, il n'y aura pas de France-Irlande, même pas à huis clos. Jean-Pierre, est-ce que tu trouves, ça fait 10 ans que le 15 de France n'a plus gagné le tournoi des 6 nations, qu'il y a une équipe qui est née ces 2 derniers mois?
Oui, ça c'est... Je dirais que j'étais sur ces 2 premiers matchs, battant les Anglais, battant les Gallois chez eux, qui étaient quand même tenants du Grand Chelem. Vraiment, j'étais fier de cette équipe, fier d'être français et fier de l'équipe de France. Parce que pour une fois, parce que ça faisait longtemps où on perd, je disais, mais c'était une sélection française. C'est pas je ne sentais pas ce côté collectif quoi qui est très très fort et qu'on a vu et naître au travers de gens à qui on a fait confiance et puis aussi de revoir un peu le week-end d'après, revoir à peu près les mêmes joueurs. Moi je me suis dit, mais comment voulez-vous faire une équipe si vraiment vous changez toujours le parce qu'il y a toujours les uns meilleurs que d'autres, ça c'est des sélectionneurs, il y en a des tas et des tas. Mais là, de refaire confiance à ce groupe qui nous a fait plaisir, et ça je trouve, on est dans le bon sens. Vous savez, je parlerai sur ma génération, on est arrivé en 87 en finale, mais le groupe, on avait commencé à le faire en 83.
Oui.
Voyez donc. Et là, à partir de là...
Et avec des fortunes diverses, parce que le tournoi 84 n'avait pas été terrible,
oui,
de mémoire.
Oh, si, on perd que contre l'Écosse.
Oui.
On perd que contre l'Écosse où Jean-Pierre Rive se fait
finir en sang, oui.
Jérôme Gallion. Et là, c'était le dernier match du capitaine Jean-Pierre Rive. Mais après, on gagne, et puis on finit avec le Grand Chelem juste pour partir pour la Coupe du Monde. Et ça, c'est pour ça. Mais après, peut-être, ça a été. Moi, ça n'a pas été dramatique. Il y a eu ça. C'est sûr qu'on se rend compte qu'à partir du moment où on prend un carton. Et là, on pénalise toute son équipe. Et ça, que ce soit le carton ou le carton jaune, le carton rouge, c'est très grave. Mais on le sait. Donc, on a intérêt à faire hausser. C'est vrai, je dirais un peu ces plaquages manqués ou retournés. Et non, là aussi, ça, on commence avec un carton jaune comme ça. Puis après, il y a vraiment. On doit faire attention et il faut éliminer et commencer à se le mettre dans la tête, dans le crâne, hein, que vraiment il y a des fautes. Si on veut tendre vers le et là sur de la perfection, il faut qu'on se perfectionne, hein, il faut gommer tout ça jusqu'après au comportement, hein,
c'est important. On va faire réagir Philippe Spanghiro parce que le temps tourne vite. Une équipe est née, Philippe, malgré la défaite contre l'Écosse, hein, parce que bon, cette équipe, elle pouvait pas gagner indéfiniment jusqu'en 2023. Hein.
Oui, bien sûr, mais puis on a placé beaucoup d'attentes en peu de temps, parce que on avait zéro certitude avant ce tournoi. Il y a eu la prise de fonction de Fabien Galthié, beaucoup de nouveaux joueurs, avec des vraies interrogations sur certains. Et puis, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a ce premier match contre l'Angleterre qui augure de belles choses. Ensuite, match qu'on a plutôt maîtrisé contre les Italiens, donc on a été régulier, ce qui nous manquait. Comme le disait Jean-Pierre, on n'a pas fait tourner l'effectif et on a vu que les joueurs commençaient à avoir des repères collectifs et notamment défensivement, où au-delà de la bonne organisation qu'on a eue, il y a eu énormément de cœur et ça a permis de créer, de façonner ce groupe et cette équipe. Donc oui, une équipe est née malgré la défaite en Écosse, mais c'est de l'apprentissage parce que on a vu une équipe malgré tout assez mature dans les décisions lors des matchs et les moments clés, les temps faibles notamment. On a vu une équipe mature et capable de pas prendre de points, mais à la fois il faut pas oublier que ça reste une équipe très jeune et qui a encore besoin de se construire et de vivre des matchs comme ça. Et comme le disait Jean-Pierre, l'objectif c'est 2023. Il faut des victoires.
Ah bah l'équipe est conçue pour ça. Hein. S'il a pratiquement pas pris un trentenaire, Galtier, c'est parce qu'il pense à une chose. Le tournoi 2020, bon, très bien, mais c'est 2023.
Bien sûr, comme j'ai toujours dit, par contre, les groupes, ils se construisent dans la victoire, hein, beaucoup plus que dans la défaite. Donc, il faut quand même que cette période de 4 ans soit jalonnée de succès et de certitude. Mais il faut quand même que l'équipe se construise et des revers, ils en auront.
Ça, c'est sûr. T'es d'accord avec ça? Des revers, évidemment, ils vont en avoir, Jean-Pierre Garouët. Mais quelque part, ils ont fait quand même de belles choses. Et on peut vraiment espérer de belles choses dans 3 ans. Trois ans et demi, comme sur fin d'année.
Vraiment. Et puis, il en faudra un minimum. Mais il faut des. S'il y a des défaites, il faut que ça apporte. Hein, c'est que. Et qui nous manque encore quelque chose, et pour arriver après en 2023 à être l'équipe à la perfection, quoi, vraiment, qu'on gomme tout ça. Mais Paris ne s'est pas fait un jour. Hein, et voilà, hein.
Mais il a quand même fait, Philippe Sanguero, il a quand même fait un très bon boulot en très peu de temps, Galtier.
Oui. Non. Et puis, faire confiance, voilà, il faut faire confiance à ces jeunes, et puis leur donner le temps, donner du temps au temps, et puis voilà.
Philippe Spanguero, voilà. T'es d'accord, Galtier a fait un super taf en un temps record, quand même.
Oui, il a fait du très bon boulot, il s'est bien staffé. Ce que je trouve sain dans ce staff, c'est la répartition des rôles. On a senti une forme de cacophonie là sur la dernière Coupe du Monde avec ce binôme officieux Brunel, Galtier, des consultants touche mêlés, etc. Bon, c'était un peu le désordre. Là, on sent que chacun est à sa place, que personne ne souhaite prendre la place de l'autre. On a l'impression que le staff est bien organisé, que les joueurs y voient clair aussi dans l'organisation qu'a mis en place le staff, que le discours passe bien et qu'il y a une vraie volonté de ces joueurs. On sent beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'enthousiasme, mais à la fois
et
beaucoup
ça laisse,
de sérieux.
Et ça laisse beaucoup d'espoir. Merci beaucoup à toi, Philippe Spanguero. Merci, Jean-Pierre Garouët, d'avoir été avec nous. Je vous annonce une nouvelle qui vient de tomber. Jean-Pierre Garouët est pyrénéen, Philippe Spanguero d'à côté des Pyrénées aussi. Martin Fourcade, quintuple champion olympique, vient d'annoncer sa retraite. Il fera sa dernière course demain. Il fallait lui rendre hommage parce que Martin Fourcade, c'est un immense champion. Dans quelques minutes, dans le loft musique de notre ami Yvan Cujous, l'invité sera également un fan de rugby et pyrénéen puisqu'il est de Perpignan, Cali. Restez bien sur Sud Radio.
Ici, tout le monde déraille, 100 fois trop bonne. T'as bugué nos entrailles, 1000 fois trop.